Tous les vendredis de 17h à 18h, écoutez votre émission Afrique Hebdo Actualité, récapitulatif de l'actualité africaine de la semaine sur la fréquence 88.4 Radio Galère et en DAB+ et sur le www.radiogalère.org pour intervenir, composez le 04 91 08 28 10. Bonsoir, auditeurs et auditrices de la Radio Galère. Heureux de vous retrouver ce vendredi pour notre émission hebdomadaire Afrique Hebdo Actualité. Nous commencerons notre émission par les titres. Le Sénégal, qui est dans les préparatifs des prochaines législatives du 17 novembre, la Côte d'Ivoire, à un an de la prochaine présidentielle, démarrage de la révision des listes électorales. Le Nigeria, géant de l'Afrique, est touché par de terribles inondations. Le Burkina Faso, épinglé par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Mali, les colonels putschistes s'arroge le grade de généraux. Niger, décès du phénix de la politique nigérienne Ama Amadou. La Guinée-Conakry, mobilisation en cours pour la candidature du colonel putschiste Mamadi Doumbia. Au Maroc, grogne des associations de défense des droits des femmes suite à une décision de justice. À Madagascar, des associations écologiques dénoncent une catastrophe écologique en cours. Cameroun, Paul Biya de retour sur la scène politique au pays. Tchad, l'opposition politique menace de boycotter les prochaines législatives. En Centrafrique, le quotidien Le Monde a publié un rapport accablant sur la MINUSCA, force onusienne. Enfin, nous aurons un magazine sur le PAJGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Galère. 04 91 08 28 10 pour ceux qui veulent intervenir sur l'antenne. Le Sénégal, la vitrine de la démocratie, de l'alternance politique en Afrique de l'Ouest, de façon particulière et en Afrique, de façon générale, prépare les législatives du 17 novembre prochain. Les meetings se multiplient à travers tout le pays. Le parti au pouvoir, le PASTEF, qui veut dire Patriote Africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, un parti politique de gauche fondé très récemment par Ousmane Sonko et Diomaye Faye. En Wolof, PASTEF veut dire une volonté inébranlable de réaliser un objectif bien défini. Précisément, ça veut dire la détermination qui anime l'individu. À titre de rappel, le PASTEF a été créé en 2014. Le PASTEF, le parti au pouvoir, a tenu un grand meeting à l'appel du Premier ministre et le président du parti, Ousmane Sonko. Le but était de collecter des fonds pour la campagne électorale après la victoire électorale des deux prisonniers politiques, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Ce qui est à retenir, c'est que la phase euphorique de l'élection présidentielle est terminée. Actuellement au Sénégal, la contestation et l'opposition politique s'organisent. L'opposant politique, il y a un jeune opposant politique qui s'illustre ces derniers jours, ces derniers mois, Boucan Gueye Dany a été placé sous mandat de dépôt. Arrêté ce week-end à l'est du pays pour avoir refusé de s'arrêter à un barrage malgré l'injonction des gendarmes, il a été présenté devant le procureur de Tambacounda le lundi 21 octobre dernier. Il est candidat aux législatives prochaines. Il a été placé sous mandat de dépôt dans l'attente de sa comparution devant la justice. Ses partisans s'insurgent contre une procédure politique. Le slogan de ses partisans est le suivant. Libérer Boucan a été scandé partout devant le tribunal de Tambacounda. Il est à rappeler aussi que l'ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, a décidé de redescendre dans l'arène politique pour un deuxième round de la présidentielle passée de mars 2024, qu'il a opposé au duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. L'une des coalitions de l'opposition Takou Wallou Sénégal a investi l'ancien chef d'État comme tête de liste nationale pour les législatives prochaines de novembre 2017. Le PASTEF au pouvoir a choisi Ousmane Sonko pour aller à la conquête d'une majorité à l'Assemblée nationale, donnant à ce scrutin des airs de duel entre ces deux figures majeures de la politique sénégalaise. La coalition Takou Wallou Sénégal réunit l'APR, le parti, l'ancien parti au pouvoir, le PDS de Karim Wad, également ancien parti au pouvoir. Macky Sall, absent du Sénégal depuis qu'il a perdu les élections de mars 2024 face à Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. 6 mois après avoir été lourdement sanctionné avec son parti lors de la présidentielle, son camp va-t-il réussir à créer un élan et rassembler l'opposition en vue d'imposer une cohabitation au parti au pouvoir, le PASTEF? La jurisprudence s'est installée au Sénégal. Les Sénégalais ont toujours confirmé aux législatives le choix fait lors de la présidentielle, rappelle le professeur en sciences politiques Moussa Diaw. 6 mois plus tard, il y a peu de chances que les Sénégalais aient changé d'avis, affirme-t-il. Deux autres oppositions se sont constituées. Celle menée par l'ancien Premier ministre Amadou Ba, transfuge de l'APR, qui appelle d'ailleurs Ousmane Sonko à un débat télévisé. Également Ousmane Sonko a répondu favorablement pour ce débat télévisé. Mais des voix se sont élevées, notamment le Comité national de régulation, le CNRL au Sénégal, a estimé qu'en organisant un débat entre Ousmane Sonko et Amadou Ba, ça se jouera sur le caractère égalitaire des autres candidats. Mais la question est posée aujourd'hui, un véritable débat, un face-à-face entre Ousmane Sonko et Amadou Ba. Enfin, la dernière coalition d'opposition constituée est conduite par le maire de Dakar, Barthélémy Diaz. En résumé, le parti au pouvoir, le PASTEF, a en face de lui trois oppositions politiques. La première conduite par Macky Sall, ancien président de la République. La seconde par Amadou Ba, ancien premier ministre, et Barthélémy Diaz. Et peut-être une quatrième, celle de Boucane Gueye Danny. Cette opposition peine à se mettre d'accord sur une stratégie électorale commune, efficiente. Pour l'heure, un accord a été trouvé uniquement dans deux départements sur 46. Bref, l'opposition politique constituée actuellement au Sénégal face à celle-là, à la majorité du PASTEF, est divisée, ce qui peut favoriser une dispersion des voix le jour du scrutin. Toujours au Sénégal, le Sénégal vient de rapatrier 117 de ses ressortissants du Liban le samedi soir au moment où les bombardements israéliens s'intensifiaient. Nous partons en Côte d'Ivoire, pays émergent, sous la conduite du professeur et du président Alassane Dramane Ouattara, qui a organisé l'une des meilleures CANs, Coupe d'Afrique des Nations d'Afrique, dans l'histoire. À un an de l'élection présidentielle, le 19 octobre dernier, la révision des listes électorales a été lancée. Un processus qui doit permettre d'inscrire plus de 4 millions de nouveaux électeurs en 3 semaines. Active ton pouvoir, inscris-toi sur la liste électorale, apparaissent sur les réseaux sociaux les affiches officielles de la Commission électorale indépendante. Ces affiches incitent notamment les nouveaux majeurs, nombreux dans ce pays où la population est jeune de façon majoritaire, à s'inscrire. Quelques 12 000 lieux de recensement seront ouverts jusqu'au 10 novembre prochain dans tous les pays pour inciter 4,5 millions de nouveaux électeurs à s'inscrire. Mais pour l'opposition, ce délai est trop court. On nous a informé que l'opération durerait 3 semaines. Ce n'est pas suffisant. Nous demandons qu'elle dure plusieurs mois, a martelé le 14 octobre dernier Tidjane Thiam, président du PDCI, qui s'exprimait au nom d'un groupement de plusieurs partis. Plusieurs mesures ont été prises par l'État ivoirien pour faciliter les démarches, notamment la gratuité du certificat de nationalité, un document obligatoire pour s'inscrire sur la liste électorale. Après la Côte d'Ivoire, nous nous approchons du Nigeria. Nous sommes toujours en Afrique de l'Ouest, en Afrique occidentale. Le Nigeria, le géant de l'Afrique, pays d'Afrique de l'Ouest le plus peuplé d'Afrique, 7e au rang mondial. La population est estimée à 219 millions d'habitants, c'était en 2021. Le taux de natalité est très élevé et les projections démographiques anticipent une croissance importante de la population dans l'avenir. Sur une superficie de 923 768 km², et où le Nigeria est ouvert sur le golfe de Guinée. C'est une république fédérale. Depuis 2009, le pays est confronté à une insurrection djihadiste dans le nord du pays, au groupe terroriste djihadiste dénommé Boko Haram, dont le chef Aboubakar Shekau s'est rendu coupable d'un terrorisme et d'atrocités inimaginables. Il est mort à la suite de combats entre deux groupes rivaux. Il s'est donné la mort après avoir déclenché sa ceinture d'explosifs le 16 juin 2021. Le pays, le Nigeria, est touché depuis plus d'un mois par de terribles inondations. La région centre redoute désormais d'être confrontée à une crise humanitaire majeure, rare que le pays n'a jamais connue. Les autorités locales ont lancé un nouvel appel à l'aide. Après le Nigeria, nous nous approchons des États de l'AES, des États putschistes. le Burkina Faso, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la CADHP, son rapporteur, l'honorable Idrissa Sow, exprime son indignation et sa forte inquiétude suite au massacre récurrent des populations civiles au Burkina Faso, surtout dans la région du Nord. Ces attaques, ces massacres sont menés par les VDP, les VDP qui sont les supplétifs des FDS, Vigilance pour la défense de la patrie. La Commission condamne les disparitions forcées des opposants politiques, les exécutions extrajudiciaires, la purge au sein des FDS des forces de défense et sécurité. Elle rappelle aux autorités de respecter les engagements internationaux auxquels ils ont souscrit, relatifs au respect des droits humains. Rappelons que le Burkina Faso est dirigé par une junte militaire qui s'est également tournée vers les mercenaires russes de Wagner. Au Mali voisin, les putschistes du 18 août 2020 et du 24 mai 2021, les 6 colonels se sont octroyés les grades de généraux à titre exceptionnel. Au nom d'un souverainisme, d'un nationalisme, d'un panafricanisme étriqué, galvaudé et propagandiste, dont le but final, c'est la confiscation du pouvoir par des militaires sortis de leurs casernes, dont la place appropriée reste les champs de défense, les champs de bataille, la défense et la préservation de l'intégrité territoriale des personnes et des biens. C'est tout le contraire. Aujourd'hui, le Mali est sous la coupe d'une junte militaire illégitime, illégale, dont l'attitude a conduit à isoler diplomatiquement et économiquement le pays sur la scène internationale. Aujourd'hui, l'électricité est une denrée rare au Mali. Les récentes inondations ont dévasté et ont entraîné des centaines de morts, ce qui a conduit à ces inondations ont provoqué une grave crise humanitaire, ce qui a conduit le régime putschiste a décrété l'état de catastrophe nationale. Les écoles restent fermées car les déplacés occupent les classes et le pays s'enlise. Le Mali s'enlise dans la guerre avec les massacres des populations civiles, les Peuls, les Touaregs, considérés aujourd'hui dans leur ensemble comme des djihadistes. Une guerre de faciès est menée par l'armée malienne avec ses supplétifs, les mercenaires de Wagner, qui coûtent à l'État malien mensuellement 7 659 899 euros. Récupérés sur les mines d'or, de diamants et de lithium, Wagner tue, pille, assassine, viole, détruit le tissu social. La junte militaire, dans son isolement, dans son autisme aggravé, vient de débaptiser la rue qui portait le nom de Damien Boitoué, premier président soldat tombé lors de l'opération Serval déclenchée le 11 janvier 2013. Et cette rue portera le nom d'Evgeny Prigogine. Damien Boitoué est tombé lorsqu'il pilotait son hélicoptère de combat sous les balles des terroristes djihadistes au moment du déclenchement de l'opération Serval. François Hollande, à l'époque, en déclenchant l'opération Serval, a stoppé l'invasion du Mali par les forces moyenâgeuses et obscurantistes. Au Niger, également dirigé par un putschiste, le Niger s'est levé en larmes par le phénix de la politique nigérienne. S'en est parti. L'ancien premier ministre Ahmad Amadou, l'un des dinosaures de la politique du pays, est mort le mercredi soir à Niamey à l'âge de 74 ans à la suite d'un paludisme aggravé. La nouvelle a été annoncée par plusieurs de ses proches. Ahmad Amadou nous a quittés des suites de maladie. Ahmad Amadou était âgé de 74 ans. Ahmad Amadou, l'homme de tous les combats politiques, nigérienne. Le géant a été emporté par la maladie. Il est né à Yuri en 1950, un village Peul, près de Niamey. Appelé par ses partisans et ses fans Ama++ en raison de ses scarifications sur les joues. Ses partisans se grimaient de plus dessinés au feutre sur les visages ou sur leurs bras lors des meetings de Ama Amadou, bondé de monde. Ceinture noire en judo, il était d'un sang-froid et d'un franc-parler légendaire. Sa carrière politique a commencé sous l'ombre du général Sénou Kounti, qui a dirigé le Niger d'une main de fer de 1974 à 1987. Ama Amadou fut brièvement premier ministre pendant 11 mois, de 1995 à 1996, sous la présidence de Mamane Ousmane, qui l'a permis d'accéder à la magistrature suprême parce qu'il est arrivé en troisième position. Ensuite, Mamane Ousmane a été renversé par Barry Maynassara, le colonel Barry Maynassara, qui sera à son tour renversé et assassiné par le commandant Daouda Malam Wanké, qui dirigeait la garde présidentielle à l'époque, qui organisa des élections pluralistes à la suite desquelles Mamadou Tandja fut président de la République. Dans les années 2000, Ama Amadou devient un homme politique de premier plan en redevenant chef du gouvernement de 2000 à 2007 sous Mamadou Tandja, 1999-2010, qui régna de 1999 en 2010. Ama Amadou fut son premier ministre de 2000 à 2007. Également, l'homme Ama Amadou connaîtra plusieurs fois la prison, le phénix de la politique nigérienne. Il sera mis en prison de haute sécurité par Mamadou Tandja, qui voulait briguer un troisième mandat, projet auquel il s'y opposa. Il bénéficia d'un non-lieu. Son parti s'appelait MODEN, Mouvement démocratique du Niger. Il fut également président de l'Assemblée nationale du Niger en 2011. Condamné dans une grotesque et fallacieuse affaire de trafic de bébés, il s'exila en France en 2015. Il est rentré au Niger après le coup d'État de juillet 2023 dans l'espoir de jouer un rôle dans la transition militaire. Hélas, le phénix de la politique nigérienne a perdu cette bataille. Il a occupé toutes les hautes fonctions de l'État du Niger. La seule qu'il n'a pas pu occuper, c'est d'être président de la République. Toujours au Niger, Abdramane Tchani, le président, le général Abdramane Tchani, président putschiste au Niger, a également fait allégeance à la Russie de Poutine. Le Niger connaît également les atteintes graves aux droits de l'homme et à la liberté de presse. À 49 ans, Younoussa Oké a été contraint de quitter le Niger, journaliste. Il est poète et écrivain, auteur de deux bouquins. Il est actuellement exilé en France. Également, Samoura Sabou, journaliste de 43 ans, a été arrêté par la junte en 2023, gardé dans un lieu inconnu pendant une dizaine de jours. Elle est toujours sous les coups de poursuites judiciaires. Elle fut contrainte à l'exil en France. Elle va recevoir le prix international pour la liberté de la presse du Comité pour la protection des journalistes et la remise du prix aura lieu fin novembre. La journaliste Samir Sabou est récompensée aux côtés d'autres professionnels de l'information qui couvrent Gaza, la Russie ou le Guatemala. Rappelons toujours au Niger qu'on est sans nouvelles du journaliste de Canal 3, Serge Mathurin Adou, de nationalité ivoirienne et nigérienne, depuis le début du mois de septembre. En Guinée-Conakry, pays également géré par une junte militaire, la mobilisation en faveur d'une candidature de Mamadi Doumbia, le putschiste, qui s'est également autoproclamé général, la mobilisation se poursuit pour l'inviter à se présenter à la prochaine présidentielle. Alors que la durée de la transition se prolonge, le chef de la junte qui a pris le pouvoir il y a 3 ans s'est engagé à ne participer à aucun scrutin. Il demeure silencieux sur ses intentions. Ce qui est évident, les militaires n'ont jamais pris le pouvoir en Afrique pour le remettre démocratiquement et y renoncer définitivement. Même ceux qui l'ont pris par les armes y sont revenus par les élections. C'est le cas du capitaine Jerry Rawlings du Ghana, Olusegun Obasanjo du Nigeria, Atete Amadou Toumani du Mali. Même s'ils remettent le pouvoir à un régime démocratiquement élu, ils sont toujours tentés de revenir au pouvoir. Nous venons au Maroc. La première condamnation d'un homme pour viol conjugal en 2019 a été annulée par la Cour de cassation. Les associations de défense des droits des femmes s'alertent et invoquent un important retour en arrière. Nous partons maintenant au Madagascar. La construction de la première autoroute du pays risque de détruire des rizières et de la forêt. Les associations écologiques dénoncent un désastre écologique et un manque de transparence dans cette opération. C'est la première fois qu'un projet présidentiel prévoit de détruire à grande échelle la forêt à Madagascar. L'environnement est en péril, selon les associations de défense de l'environnement. Au Cameroun maintenant, après de nombreuses rumeurs sur son état de santé, le président camerounais Paul Biya, à 91 ans, est dans la vie politique de son pays depuis 1975, où il fut nommé premier ministre par le premier président Amadou Ahidjo, poste qu'il occupa de 1975 à 1982. Il succéda à Amadou Ahidjo en 1982 et jusqu'à nos jours, il continue de régner d'une main de fer sur le Cameroun, ce qui lui fait 42 ans d'exercice du pouvoir présidentiel. Est de retour au pays après 7 semaines d'absence et d'inquiétude pour ses partisans. Au Tchad voisin, qui est une république dynastique, Père Déby qui s'est emparé du pouvoir en 1990 par les armes, qui a chassé Hissène Habré, venu avec Idriss Déby en 1992, poussant Gougouni Wédé à s'exiler en Algérie. Idriss Itno Déby est mort en avril 2021. Son fils, le général Mamat Déby, à la tête d'un conseil militaire de transition, a décidé de prendre le pouvoir. Mamat Déby devient président de la République Sud à des élections controversées organisées en 2024 à l'âge de 40 ans. Son principal opposant, Success Masra, a annoncé que son parti ne participera pas aux prochaines élections législatives et locales, déclaration qu'il a faite à l'occasion d'une cérémonie d'hommage aux victimes des manifestations du 20 octobre 2022. En Centrafrique voisin, le quotidien français en partenariat avec l'organisme indépendant humanitaire The New Humanitarian a recueilli des témoignages de 19 femmes victimes d'abus sexuels de la part des soldats de la MINUSCA, qui est une force onusienne basée en Centrafrique pour amener la paix. Nous continuons les témoignages. Nous parlerons du parti africain, le PAIGC. Le PAIGC, avant cela de parler du parti africain, le PAIGC, nous allons observer une petite pause musicale.
Chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe, on veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser, avoir un beau métier, pouvoir voyager. vous appelez liberté. On veut que nos familles ne manquent plus de rien. On veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim. On veut quitter cette misère quotidienne pour de bon. On veut partir d'ici quand nous sommes tous en train de péter les plombs. Oh.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits. En levant très vite sur le chemin de l'école, un beau jour il décide de prendre son envol. Na, 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 na. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Sable doré, mille animaux en cage, et battu nos forêts. Qu'est-ce qui nous reste quand on enlève mes vides? On se prépare au voyage et on se jette dans le vide. Na, 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 na. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Auditrices et auditeurs de la radio Galère, nous partons sur notre page magazine d'aujourd'hui qui est consacrée à Amical Cabral, le PAIGC Amical Cabral. Le PAIGC, c'est le parti qui a conduit à l'indépendance la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Amical Cabral était ce guérilleros, ce grand révolutionnaire qui a combattu la pénétration coloniale portugaise. Et Amical Cabral a conduit le combat pour la libération des peuples colonisés par le Portugal. Amical, le Parti africain pour l'indépendance, a été créé par Amical Cabral en 1956 par des militants. Par des militants indépendantistes qui étaient à ses côtés. Le but était de conduire la Guinée-Bissau et le Cap-Vert à l'indépendance. Avec votre permission, je vous ferai écouter un de ses célèbres discours qu'il a prononcé lors de la mort du président ghanéen Kwame Nkrumah, qui est aussi un grand panafricaniste qui a été renversé par un coup d'État, qui est mort en exil en Guinée. D'Ahmed Sékou Touré.
Les discours publics à Conakry lors des obsèques de l'ex-président ghanéen Nkrumah, le cancer de la trahison qui ronge les mouvements africains. Ces propos prennent une étrange résonance aujourd'hui, qu'en Guinée comme en Angola et au Mozambique, plusieurs mouvements réclament un pouvoir que les Portugais n'ont pas encore abandonné.
Quoi dire encore? Mais nous devons parler, car sinon, à ce moment, si nous ne parlons pas, le cœur peut éclater. Nos larmes ne doivent cependant pas noyauter la vérité. Nous, combattants de la liberté, nous ne pleurons pas la mort d'un homme, même d'un homme qui a été un compagnon de lutte et un révolutionnaire exemplaire. Car comme dit souvent le président Ahmed Sékou Touré, qu'est-ce que l'homme devant le devenir infini et transgressant du peuple et de l'humanité? Nous ne pourrons non plus le peuple du Ghana bafoué dans ses réalisations les plus belles, dans ses aspirations les plus légitimes. Nous ne pourrions pas également l'Afrique trahie. Nous pleurons, oui, de haine à l'égard de ceux qui ont été capables de trahir Nkrumah au service ignoble de l'impérialisme. Monsieur le Président, l'Afrique, en exigeant par la voix du peuple de la République de Guinée, interprétée fidèlement comme toujours par le président Ahmed Sékou Touré, que Nkrumah s'est placé à sa place de droit au plus haut cime du Kilimandjaro de la révolution africaine, l'Afrique se réhabilite elle-même, devant elle-même et devant l'histoire. Le président Nkrumah, auquel nous rendons hommage, c'est d'abord le stratège génial de la lutte contre le colonialisme classique, celui qui a créé ce que nous pouvons appeler le positivisme africain, auquel il a appelé the positive action, l'action positive. Nous rendons hommage à l'ennemi déclaré du néocolonialisme en Afrique et ailleurs, au stratège du développement économique de son pays. Monsieur le Président, nous saluons le combattant de la liberté des peuples d'Afrique, qui a toujours su accorder un appui sans réserve au mouvement de libération nationale. Et nous voulons vous dire ici que nous, en Guinée aux îles du Cap-Vert, s'il est vrai que le facteur primordial pour le développement de notre lutte à l'extérieur de notre pays a été l'indépendance de la République de Guinée, le nom héroïque du peuple guinéen le 28 septembre 1948, il est vrai aussi que si nous sommes partis vers la lutte encouragée, cela a été beaucoup dû à l'appui concret du Ghana et particulièrement du président Nkrumah. Monsieur le Président, nous devons cependant à ce moment nous rappeler que toutes les monnaies dans la vie ont deux faces. Toutes les réalités ont des aspects positifs et négatifs. À l'action positive s'est opposée et s'oppose toujours une action négative et vice-versa. Jusqu'à quel point donc le succès de la trahison au Ghana est-il lié ou non lié à des problèmes de la lutte de classe, des contradictions du statut social, du rôle du parti et d'autres institutions, y compris des forces armées, dans le cadre d'un nouvel État indépendant? Jusqu'à quel point, demandons-nous à nous-mêmes, le succès de la trahison au Ghana est-il ou non lié à une définition correcte de cette entité historique et artisan de l'histoire qu'est le peuple et à son action quotidienne en défense de ses propres conquêtes dans l'indépendance? Ou jusqu'à quel point le succès de la trahison n'est-il pas lié au problème majeur du choix des hommes dans la révolution? Méditer sur cette question nous permettra peut-être de mieux comprendre la grandeur de l'œuvre de Nkrumah, de comprendre la complexité des problèmes qu'il a dû affronter combien de fois seul. Des problèmes qui nous permettront sûrement de conclure que tant que l'impérialisme existe, un État indépendant en Afrique doit être un mouvement de libération au pouvoir ou il n'en sera pas. Qu'on ne vienne pas nous affirmer que Nkrumah est mort à cause d'un cancer de la gorge ou d'autres quelconques maladies. Non, Nkrumah a été tué par le cancer de la trahison que nous devons extirper. Par le cancer de la trahison dont nous devons extirper les racines en Afrique si nous voulons vraiment, vraiment liquider définitivement la domination impérialiste sur ce continent. Mais nous, Africains, nous croyons fermement que les morts continuent vivants à nos côtés. Nous sommes des sociétés de morts et de vivants. Nkrumah ressuscitera chaque aube dans le cœur et dans la détermination des combattants de la liberté, dans l'action de tous les véritables patriotes africains. Nous, mouvement de libération, nous ne pardonnerons pas ceux qui ont trahi Nkrumah. Le peuple du Ghana ne pardonnera pas. L'Afrique ne pardonnera pas. L'humanité progressiste ne pardonnera pas.
Auditeurs et auditrices de la radio Galère, vous venez d'écouter ce discours célèbre d'Amical Cabral qu'il a prononcé quelques jours avant son assassinat. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert est un parti politique fondé en 1956 par des militants indépendantistes autour d'Amical Cabral. Des militants indépendantistes anti-impérialistes et anti-colonialistes à l'époque, dans le but de réaliser l'indépendance et la liberté pour les peuples du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau et des peuples africains qui étaient sous la domination coloniale du Portugal, notamment ceux de la Mozambique, l'Angola. Alors, le PAIGC déclenche la grande guerre de libération. Sous la conduite d'Amical Cabral, ce fut une guerre de libération armée. Les attaques furent d'une redoutable efficacité, deviennent un piège pour les Portugais, tant sur le plan humain que sur le plan financier. Au plus fort de la guerre, pour les besoins de la défense, le budget portugais a connu d'énormes crises et c'est ainsi que 50% du budget ont été investis pour les frais de dépenses militaires. La rébellion des Casamançais traverse la frontière pour soutenir la Guinée-Bissau. Le PAIGC, à l'époque, était soutenu par l'ex-URSS et par les Cubains. Et c'est cette bataille menée par le parti PAIGC d'Amical Cabral que la Guinée-Bissau accéda à l'indépendance en 1973, le 24 septembre 1973. Également, il faut savoir que Amical Cabral est né en 1924 et il a été assassiné le 20 janvier 1973 également à cause de ce discours révolutionnaire qu'il a prononcé, parce qu'il a estimé que l'Afrique que le problème de l'Afrique, ce n'est pas autre chose. Le problème de l'Afrique réside dans la trahison auquel les Africains et que les Africains nous sommes désunis, que face à notre désunion, nous ne pouvons pas réussir dans notre combat pour l'indépendance, pour la liberté et pour la démocratie. C'est ce discours célèbre, après avoir prononcé ce discours célèbre, où il a accusé les peuples africains, la jeunesse africaine, où il a accusé l'intelligentsia africaine d'être la source effectivement de tous les malheurs de l'Afrique. Également, Amical Cabral était connu sous le nom du pseudonyme Abdel Diassi. Abdel Diassi est un homme politique de Guinée. Abdel Diassi était son nom de guerre et il était nommé Abdel Jassi sur le champ de bataille. Pour votre rappel, Amical Cabral effectua des études d'ingénieur agronome à l'université de Lisbonne. Il fut également homme politique, écrivain, politologue, guérilleros. Il permettra l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Amical Cabral a été assassiné le 20 janvier 1973 à Conakry, qui était sa terre d'asile, qui était sa terre où il s'était exilé par des membres de la branche militaire du parti en relation avec des agents des autorités portugaises seulement quelques jours avant l'indépendance. Il est à rappeler que Amical Cabral était dans la continuité des mouvements de libération qui ont été germés en Afrique, à savoir le RDA, le Rassemblement démocratique africain, qui a été créé en octobre 1946 à Bamako. Le RDA, Rassemblement démocratique africain, où des partis indépendantistes comme le PAI, le Parti africain pour l'indépendance, ou d'autres partis, le parti nigérien de Djibo Bakary, qui a été également contraint en exil, dont le parti s'appelait le Savaba, Djibo Bakary, les Moumouni Diofo. Donc Amical Cabral s'inspirait de la lutte menée par les Modibo Keïta, les Ahmed Sékou Touré, les Gamal Abdel Nasser, les Habib Bourguiba et les Mohamed V du Maroc, tous ces grands indépendantistes qui ont mené le combat en Afrique pour conduire à l'émancipation de l'Afrique. Donc Amical Cabral tirait sa source révolutionnaire dans l'idéologie de Modibo Keïta, d'Ahmed Sékou Touré et de Kwame Nkrumah. Son label essentiel était que l'Afrique ne pourra se développer, que l'Afrique ne pourra s'affranchir et être plus libre que lorsque les Africains le voudront eux-mêmes, que lorsque les Africains décideront de prendre leur destin en main, que lorsque les intellectuels africains, ils le disaient de façon crue, que les véritables prostituées en Afrique, ce sont les intellectuels. Ils estimaient que la plaie de l'Afrique, c'était l'élite, et qu'il revenait à cette élite africaine de s'approprier, qui a eu accès à la connaissance, de transmettre cette connaissance aux peuples africains et aux masses laborieuses pour leur amener à réfléchir sur leur sort et pour leur amener à couper les chaînes de l'oppression, de la domination, de l'aliénation et de l'obscurantisme. C'était cela son discours. Amener à l'éveil de conscience, Amical Cabral, son discours essentiel. Auditeurs et auditrices, notre émission tire vers la fin et tout en espérant que je vous retrouverai, nous nous retrouverons le vendredi prochain sur d'autres thèmes et d'autres actualités plus intéressantes. le vendredi de 17h à 18h, écoutez votre émission Afrique Hebdo Actualité, récapitulatif de l'actualité africaine de la semaine sur la fréquence 88.4 Radio Galère et en DAB+, et sur le www.radiogalère.org pour intervenir, composez le 04 91 08 28